Le plus grand pianiste de tous les temps, de Christophe Fiat. Premier épisode.
Il était beau comme un dieu, avec sa longue chevelure et son regard d'aigle. Il disait souvent « Mourir jeune, quel bonheur !» Séducteur envoûtant, il exerçait un puissant magnétisme par sa personnalité et sa musique. Interprète aux tournées innombrables, compositeur touché par la grâce, il était une idole incontestée du piano. Mais derrière le triomphe et la célébrité, se dissimulait un homme anxieux, portant toujours au doigt une bague avec une tête de mort. Voici son histoire. Voici l'histoire de Liszt, Franz Liszt, L-I-S-Z-T. Voici l'histoire de la première star au monde,
Liszt Ferenc,
l'histoire du plus grand pianiste de tous les temps.
Minden idők legnagyobb zongoristája.
On est en Hongrie, dans le village de Reding, en 1811. Un jour de février, une femme enceinte voit passer une comète dans le ciel. L'astre a une queue lumineuse de couleur jaunâtre, divisée en deux branches, et sa tête est gris-bleu. La femme s'appelle Anna. Elle est mariée avec Adam Liszt, qui est l'intendant des bergeries du prince Nicolas Esterhazy. Il est responsable d'un gros centre d'élevage de moutons. On le voit souvent sur son cheval, inspectant les troupeaux, qui peuvent atteindre plus de 50 000 têtes. Anna est alors frappée d'une terreur superstitieuse et se demande
«
Est-ce un bon ou un mauvais présage ?» Très vite, elle s'en remet à la vie des tziganes qui vivent à proximité dans des roulottes et des tentes déployées en larges cercles. Ils disent que c'est un signe qui annonce la naissance d'un grand homme. Quelques mois plus tard, alors qu'elle se promène, elle tombe dans un puits désaffecté et échappe de peu à la noyade.
Adam,
quand on la remonte, trempée et contusionnée, elle se dit qu'elle a eu beaucoup de chance parce que si elle est encore en vie, c'est à cause de l'enfant qui est assurément l'élu des tziganes.
Muzsikus lesz.
Nagy muzsikus. Képes lesz, hogy megtáncoltassa a csillagokat is. Adam, je sais que ce sera un garçon.
Megvalósítja majd azt az álmomat.
Il aura un destin exceptionnel. Il sera musicien.
Un grand musicien.
Il accomplira
ce que j'avais espéré pour moi.
Être un grand pianiste.
Tu seras un bon père.
Le tzigane ne se trompe jamais. Une queue de comète divisée en deux branches, c'est rare.
Certaines nuits, je passe des heures à la regarder.
Tu dois te reposer. Être la mère d'un grand homme n'est pas un honneur, mais un devoir.
Il se demande, c'est quoi un grand homme ? Est-ce que c'est un génie ou un héros populaire ? Est-ce que c'est un révolutionnaire ou le chef d'une nation ? Comme ces questions sont sans réponse, il se perd dans ses pensées. Maintenant, on est le mardi 22 octobre. Anna accouche, et c'est un garçon. Elle l'appelle Franciscus, Franciscus Liszt. Mais on lui dit Franz ou Franzi.
Anna, tegnap a Liszt koncertuját játszottam. Franz egészen ráfeküdt a billentyűkre.
Anna, hier, j'ai joué le concerto de Liszt en U dièse mineur. Franz était penché sur le clavier. Il était totalement absorbé par la musique.
Oui, je sais. Le soir, en revenant du jardin où elle était allée se promener, il a chanté le thème du concerto sans savoir ce qu'il chantait.
C'est le premier signe de son génie.
Attention, il est encore petit, il n'a que 6 ans et sa santé est fragile.
C'est lui qui m'a demandé des leçons.
Il ne faut pas que ça l'empêche de jouer avec des enfants de son âge.
Il est temps que la prophétie se réalise. S'il est l'élu, il apprendra vite.
Adam a de grandes connaissances musicales et il interprète Bach, Hummel et Beethoven. Parfois, quand il va inspecter les troupeaux, il emmène Franz et il le présente à ses amis musiciens. Un jour qu'il est chez un riche marchand pour une affaire, l'homme demande à sa fille de jouer un morceau sur un piano qu'il vient de lui offrir. Lorsque Franz entend la musique, il est si ému qu'il pleure en silence dans les bras de son père. Alors le marchand qui est touché lui donne aussitôt le piano et Franz se jubile. À partir de ce jour, À chaque fois qu'on lui demandera ce qu'il veut être quand il sera grand, il montrera du doigt le mur de la maison familiale où est accroché un portrait de Beethoven et dira en allemand « Ein solcher ». Ce qui veut dire en français « comme lui ». Maintenant, le destin de Franz est tout tracé. Oui, il a un don exceptionnel. Oui, il est surdoué. Et oui, il veut être comme Beethoven. Pour commencer, Adam apprend à son fils le nom des notes et la manière de lire la musique. Puis, il l'encourage à jouer de mémoire, à jouer à vue, et plus que tout, à improviser. Bien sûr, comme les Liszt vivent dans de grandes difficultés matérielles, Adam pense à exploiter le talent de son fils. Mais comme il sait qu'il doit acquérir un savoir-faire, il est patient. Ainsi, Franz grandit sans entrave et il profite de ses moments de liberté pour aller voir les tziganes. À la nuit tombée, il va dans leur camp et il les épie. Ils allument de grands feux, ils dansent et ils chantent comme s'ils étaient en état d'hypnose. La journée, à Reading, ils disent la bonne aventure ou troquent des objets d'artisanat ou mendient et évoquent toujours la naissance d'un grand homme suite au passage de la comète sans savoir qu'il est là, le grand homme, dissimulé à quelques mètres seulement. Franz va aussi souvent se promener jusqu'au monastère franciscain. Il s'imagine au milieu des saints et des martyrs. Il prie dans les minuscules églises du village et sent très intensément en lui l'existence de Dieu. Puis le jour arrive où Adam se décide à quitter Reading pour que son fils suive l'enseignement d'un professeur chevronné. Il pense à un pédagogue virtuose qui habite Vienne et qui donne 12 heures de leçons par jour. Il s'appelle Karl Czerny. Dès les premières leçons, le professeur comprend que Franz est un pianiste inné, qui joue en obéissant aux sentiments. Il décide alors de lui donner des cours gratuitement. Au début, il trouve son jeu trop débridé et extravagant. Alors il l'aide à renforcer sa technique. Il est l'adepte de l'égalisation des doigts et il lui administre des exercices d'endurance en doses massives. Pendant les premiers mois, le maître et l'élève se concentrent sur les gammes. Franz travaille tous les tons, sur les bons doigtés, dans la stricte observance du rythme et de la production du son. Ce qui est difficile parce qu'il doit renoncer à tout ce qu'il connaît du répertoire enseigné par son père. Mais comme il réfléchit très vite, il fait de grands progrès. Puis, il a un autre professeur qui lui aussi accepte de donner des cours gratuits. Il s'appelle Antonio Salieri. Il a plus de 70 ans et il est Kapellmeister royal, maître de la chapelle royale. Il est bienveillant avec l'enfant. Si Czerny insiste sur la technique, Salieri développe sa sensibilité et l'encourage même à créer. Ce qu'il fait aussitôt en composant un Tantum Ergo. Le 1er décembre 1822, le premier concert de Franz a lieu à l'hôtel de ville de Vienne. Il a 11 ans, il partage l'affiche avec Caroline Unger, une chanteuse austro-hongroise de 19 ans, et Léo Lubin, un violoniste. Franz joue le concerto en la mineur de Hummel et une fantaisie libre. Le lendemain, on lit dans l'Allgemeine Zeitung « Un jeune virtuose est tombé du ciel et force notre plus haute admiration. C'est un petit Hercule. » Cette critique comble Anna et Adam pour qui les prédictions sur le passage de la comète deviennent réalité.
Franz Genier a végotta.
Áldott legyen az ég, a nagy üstökös és a cigányok jóslata.
Oui, le génie de France, dit le père, est bien tombé du ciel. Béni soit le ciel, la grande comète et la prophétie tzigane, dit la mère. Puis, il fait un autre concert à l'occasion duquel on lit cela sur le programme. Avec l'approbation des autorités, le jeune garçon de 11 ans, Franz Liszt, natif de Hongrie, aura l'honneur de donner un concert dans la petite Redoutensaal le dimanche 13 avril 1823, à midi. Ce jour-là, il joue le concerto en si mineur de Hummel et une série de grandes variations de Moscheles avec toujours une petite fantaisie libre. Mais cette fois-ci, il est assisté d'un orchestre. Il y a aussi une personne très importante parmi les spectateurs. En effet, il est encore précisé sur le programme « Fantaisie libre au piano par le concertiste sur un thème écrit, très humblement demandé à quelqu'un dans le public. » Qui est cette personne ? C'est Ludwig van Beethoven. Alors quand Franz a fini de jouer, le célèbre compositeur monte sur l'estrade au milieu des applaudissements et l'embrasse. Et c'est la consécration. La veille, Adam avait emmené son fils chez lui. Quand le compositeur avait aperçu Franz, il avait déclaré, assis au bout de la longue table étroite sur laquelle il travaillait, « Va, tu es un heureux, car tu apporteras joie et bonheur à beaucoup d'autres. Il n'y a rien de meilleur ni de plus beau. » Cette visite sera mise en doute quand, 50 ans plus tard, Liszt racontera cette histoire. En effet, à cette époque, Beethoven était sourd et certains penseront qu'il ne pouvait tenir une conversation avec autant de répartie et que tout ça est une pure invention. D'autres diront aussi que Liszt a perdu la mémoire et qu'il a tendance à rêver son passé. Puis, Adam décide de partir en tournée avec son fils. Salieri n'a pas d'avis sur la question, si ce n'est que ça le prive de ses cours. Mais Czerny proteste. Il craint qu'une existence de virtuose ne nuise à sa sensibilité. Il pense aussi qu'Adam y voit une façon commode de gagner de l'argent, ce qu'il juge préjudiciable. Adam ne veut rien entendre. Son fils est un génie, né sous les auspices de la comète de 1811, et rien ne pourra l'arrêter. Mais comme il est moins superstitieux que sa femme, il a une idée pour mettre toutes les chances de son côté. Il choisit d'emprunter le même itinéraire que le jeune Mozart. Munich, Augsbourg, Stuttgart, Strasbourg. Comme ça, dit-il, on fera un lien symbolique entre Franz et Amadeus. Les Liszt quittent Vienne le 20 septembre 1823. Ils arrivent à Munich le 26, c'est l'Oktoberfest. La ville est pleine de visiteurs. Puis comme Adam apprend que Moscheles va faire un concert, il décide de différer celui de Franz afin que le public puisse comparer son fils au plus remarquable maître de clavier de l'époque. Ça ne rate pas. Le roi qui est présent s'exclame « Vous avez osé entrer en scène après Moscheles ?» et vient embrasser l'enfant. À Augsbourg, Franz donne 3 concerts en 4 jours, dont un au bénéfice des pauvres. Tout se passe bien, si ce n'est qu'une rumeur assombrit le séjour des Liszt. Ils apprennent que Salieri aurait tenté de se suicider en se tranchant la gorge à cause d'une campagne de diffamation montée contre lui par des gens qui prétendent qu'il a empoisonné Mozart. Franz est peiné et Adam écrit à Czerny « Plaise à Dieu que ce ne soit pas vrai. » Puis les listes sont à Stuttgart où 2 concerts sont annoncés au théâtre de la cour. Puis ils vont à Strasbourg. Au final, cette première tournée rapporte à Adam 921 florins. Maintenant, ils sont à Paris. On est le 11 décembre 1823. Franz a 12 ans. Dans un premier temps, il loue une suite à l'hôtel d'Angleterre, comprenant 2 salons de réception au rez-de-chaussée. Ils ont beaucoup de chance parce qu'ils sont voisins de Sébastien Erard, le fabricant de pianos, et que les 2 familles deviennent très vite de bonnes amies. Les Erard possèdent un bâtiment avec des ateliers et un salon où ils donnent des concerts publics pour faire connaître leurs instruments. Tout de suite, Erard et son neveu reconnaissent le talent de Franz et lui offrent un piano. C'est un de leurs derniers modèles. Les 2 hommes conviennent d'un arrangement. Franz peut jouer sur leur piano, moyennant quoi, Erard se chargera lui-même de les expédier aux destinations voulues. Ce qui vaut très vite à Franz d'être présenté comme un artiste Erard. Les pianos Erard suivront ainsi Franz à Londres, Manchester, Bordeaux et Genève. Puis, Adam inscrit Franz au Conservatoire de Paris. Le directeur en est Luigi Cherubini. C'est un homme sec, guindé, neurasthénique, prolifique compositeur d'opéra et de musique d'église, adoré par Beethoven. Adam est reçu poliment et il lui tend une lettre de recommandation. Mais Cherubini lui dit que le règlement interdit l'admission des étrangers. Alors, il cherche d'autres professeurs. Son choix s'arrête sur Anton Reicha pour la théorie et Fernandino Paer pour la composition. Entre décembre 1823 et mars 1824, il donne 38 concerts. Il se fait surtout remarquer à l'occasion d'une soirée où il est spectateur. Un trio de musiciens français est en train de jouer quand tout à coup, Franz, incapable de contenir son excitation, court au clavier et commence à improviser sur les thèmes qu'il vient d'entendre.
Le concert avait à peine commencé qu'il ne tenait plus en place.
Ses doigts s'agitaient malgré lui.
Le feu du génie pétillait dans ses yeux.
Puis, il s'est précipité sur l'estrade.
Nous n'avons pas pu le retenir.
Il a bondi sur le piano et il a joué.
Tout le monde était est subjugué.
J'avais peur pour lui.
Mais Franz est protégé par la comète. On aurait dit Mozart.
À la fin du concert, il fut nommé sur le champ membre de la Société Académique des Enfants d'Apollon.
À la suite de quoi, tous les journaux se mirent à célébrer Franz. Les éloges fusaient.
La Pandore, le journal des débats, la Gazette de France.
Le diable boiteux, le drapeau blanc et le moniteur universel.
Il éclipsa vite tous les enfants virtuoses qui l'avaient précédé.
On aurait dit Mozart.
C'est alors que j'ai eu l'idée de louer le théâtre des Italiens.
C'est dans ce théâtre que Franz a son premier grand succès public. Adam fait engager pour l'occasion un orchestre symphonique et une fois de plus, Franz joue comme à Vienne et à Munich le concerto en si mineur de Hummel et les variations pour piano et orchestre de Czerny. Toute la haute société parisienne est présente et il y a aussi beaucoup de musiciens professionnels. Dès que Franz apparaît, les applaudissements se font entendre et chaque passage suscite l'enthousiasme et l'étonnement. À la fin de chaque morceau, il est rappelé deux ou trois fois et il est encore applaudi pendant que les musiciens de l'orchestre ne cessent de frapper de l'archet le dos de leur basse, violoncelle, alto et violon. Les cuivres crient à s'enrouer et tout le monde est dans un ravissement indescriptible. Au total, le concert rapporte 4 711 francs de bénéfices. On peut lire dans le drapeau blanc. C'en est fait. Depuis hier soir, je crois à la métempsychose. Je suis convaincu que l'âme et le génie de Mozart sont passés dans le corps du jeune Liszt. C'est Mozart lui-même. Jamais l'identité ne s'est manifestée par des signes plus évidents. Même patrie, même talent prodigieux dans l'enfance et dans le même art. J'en appelle à tous ceux qui ont eu le bonheur d'entendre le merveilleux petit virtuose. En prenant le nom de Liszt, son nom est encore écrit L-I-S-T, Mozart n'a pas perdu cette jolie figure qui accroît toujours l'intérêt qu'inspire un enfant remarquable par un talent précoce. Alors, du jour au lendemain, Franz devient le petit Liszt. Ainsi, à 12 ans, il est adulé dans tout Paris. À chaque fois qu'il va au théâtre, beaucoup d'admirateurs le complimentent. Il est obligé de faire le tour des loges pour saluer tout le monde. Il est invité partout pour jouer et Adam fixe le cachet minimum de son fils à 100 francs la soirée. Le voyage en voiture est en plus. Malgré tout, Franz garde son innocence. Ça se voit aux traits réguliers, bien dessinés et doux qu'il a sur le visage. Parfois, il semble méditer comme s'il rêvait des tziganes dont le camp était proche de sa maison natale ou comme s'il était possédé par le dieu du monastère franciscain. Maintenant, on est en 1824 et le père et le fils sont à Londres. Anna n'est pas là. Elle est à Graz, chez sa sœur. C'est le printemps. Erard les accompagne avec un nouveau piano. Le petit groupe s'installe dans un appartement au 18 Great Marlborough Street où la firme Erard a une succursale. Franz donne un premier concert privé aux Argyll Rooms sous les auspices de la Royal Society of Musicians. Il y a beaucoup de professeurs, d'amateurs et d'admirateurs de cette science qu'est la musique. Et ils viennent autant voir le jeune prodige que le piano. Puis le 21 juin, il se produit au même endroit, mais cette fois en public. Il y a un orchestre et comme toujours, le concerto en si mineur de Hummel constitue la pièce majeure du programme. À un moment, le chef d'orchestre s'arrête et demande au public un thème sur lequel l'enfant pourrait travailler. Une dame crie « Zitti, Zitti !» du barbier de Séville de Rossini et Franz improvise aussitôt une fugue sur cette mélodie. Il joue aussi au château de Windsor pendant plus de 2 heures devant la famille royale et il enchante le roi George IV par une improvisation sur le menuet du Don Juan de Mozart. Puis le père et le fils vont à Manchester. Mais là-bas, la virtuosité de Franz n'impressionne personne parce qu'il partage l'affiche avec un bébé harpiste. Elle s'appelle Lyra et elle a 4 ans. Mais Franz n'est pas blessé, juste un peu déçu. Et son père est content parce qu'il a perçu 100 livres pour ce concert. Puis l'enfant devient adolescent et il a une grave crise morale. Il a 15 ans et il écrit ça dans son journal intime.
La perte de temps est un des plus grands désordres du monde. Cette vie est si courte, tous les moments en sont si précieux, et néanmoins nous vivons comme si cette vie ne devait jamais finir. Dieu me voit et je pourrais l'offenser en sa présence. Je pourrais préférer de plaire à un homme plutôt qu'à Dieu. Il y a peu de choses impossibles par elles-mêmes. Et l'application pour les faire nous manque plus que les moyens.
Alors, le père et le fils ont une conversation.
Ta profession est la musique, Franz. T'es né dans la musique. T'as un don. La véritable voie de l'artiste ne mène pas à la religion, mais à l'art.
Mais Dieu dans tout ça.
Aime Dieu, de manière à t'élever plus haut encore dans ton art. Tu appartiens à l'art, pas à la religion.
Tu dis cela parce que mon talent te fait gagner beaucoup d'argent.
Qui t'a dit cela?
Tout le monde le dit.
C'est faux. Écoute-moi. L'année de ta naissance, une comète est apparue. Elle est restée visible un an. C'est à son influence que tu dois ton génie.
Quoi? Une comète? Mais tu es fou. Je ne dois mon génie qu'à mon travail.
En 1827, le père de Franz Liszt tombe gravement malade. Il a la fièvre typhoïde et il meurt le 28 août à Boulogne. Franz est tellement triste qu'il arrête de donner des concerts. Mais en plus du chagrin, il se rend compte qu'il est devenu un chien savant. Voilà, ça le répugne d'être à la solde des gens haut placés et fortunés.
Plus tard, lorsque la mort m'eut enlevé mon père et que revenu seul à Paris, je commençais à pressentir ce que pouvait devenir l'art. Ce que devait être l'artiste. Je fus alors comme écrasé par les impossibilités que je voyais surgir de toutes parts dans la voie que se traçait ma pensée. Ne trouvant d'ailleurs aucune parole sympathique, non seulement parmi les gens du monde, mais encore parmi les artistes qui sommeillaient dans une commode indifférence, n'ayant nulle conscience de moi, du but que je devais me poser et des forces qui m'étaient départies, je me laissais déborder par un amer dégoût de l'art, réduit tel que je le voyais à un métier plus ou moins lucratif. À un amusement, à l'usage de la bonne compagnie.
Maintenant, Franz vit avec sa mère au 7 rue Montholon, face à l'église Saint-Vincent de Paul, et il devient un professeur de piano très en vogue à cause de sa réputation de virtuose. Il a 16 ans et il donne ses leçons dans une institution de jeunes filles rue de Clichy, dirigée par une certaine Madame Alix. Il donne aussi des cours particuliers. Mais comme ses élèves sont éparpillés dans tous les coins de la capitale, il parcourt chaque jour de longues distances et il a à peine le temps de déjeuner, il s'en plaint. Le soir, quand il rentre trop tard, il dort dans l'escalier pour ne pas réveiller sa mère. Pour tenir le coup, il commence à fumer et à boire. Il est livré à lui-même et il devient très impulsif. Il n'arrête pas de répéter les mots de son père. L'année de ta naissance, une comète est apparue. Elle est restée visible un an. C'est à son influence que tu dois ton génie. Puis un jour, il tombe amoureux d'une de ses élèves. Elle s'appelle Caroline de Saint-Cricq. Elle a 17 ans et elle est la fille d'un comte. Il vit avec elle sa première passion et très vite il est question de fiançailles. En effet, la mère de Caroline est charmée par Franz, mais elle tombe malade subitement et elle meurt. Pendant qu'elle agonise, elle dit à son mari « Si elle aime, laissez-la être heureuse. » Mais le comte ne respecte pas les dernières volontés de sa femme et 2 ans plus tard, il marie sa fille à un ministre. Alors Franz fait une dépression nerveuse et reste prostré de longues heures sur les dalles froides de l'église Saint-Vincent-de-Paul et aspire à se faire abbé. Il veut entrer au séminaire pour vivre comme un saint ou un martyr. Sa mère s'inquiète. Elle ne le voit qu'à l'heure des repas. Il s'assied en face d'elle, les yeux rivés sur la table, en silence. Chaque jour, il se confesse et il va tellement mal que le bruit court qu'il est mort. Un article nécrologique est même publié le jour de ses 17 ans, le 23 octobre 1828, sous le titre « Mort du jeune Liszt ». Et on peut voir dans certaines boutiques des portraits de lui portant la légende « Né le 22 octobre 1811, mort à Paris en 1828 ». Franz est troublé par cette nouvelle. À cette occasion, il a une conversation avec sa mère.
« Franz, quand tu étais enfant, tu as failli mourir 2 fois. »«
La comète m'a protégé. »«
D'où sais-tu ça ?»«
Père m'en a parlé avant de mourir. »«
Il m'avait promis de ne rien te dire. »
Pourquoi ?
Un tel pouvoir doit être caché.
Mais c'est sur moi qu'il agit.
Justement, moins on en sait, mieux c'est. Tu es un génie, Franz. Tu as été visité par un esprit à ta naissance. Il te protège et te guide. C'est en lui que tu puises toute ton inspiration.
Mon inspiration me vaut d'être célèbre. Et la célébrité me tue aujourd'hui.
Sans les tziganes qui campent à proximité de Riding, ton père et moi, nous n'aurions rien su des pouvoirs de la comète.
C'est donc pour ça que je me sens irrésistiblement attiré par eux.
Oui.
Mais Dieu dans tout ça. J'aime aussi Dieu.
La musique te guidera, Franz.
Puis, on est en 1830 et c'est la révolution de juillet. L'atmosphère à Paris est explosive et tout le monde parle de guerre civile. Lorsque Franz entend les bruits de fusillade de sa fenêtre, il sort et suit les combats dans les rues des pavés de la capitale. Il se joint à la foule qui acclame Lafayette, qui avait déjà demandé l'abdication de Napoléon. Cette révolution agit sur Liszt comme un stimulant. Il se remet à composer et ébauche une symphonie révolutionnaire datée des 27, 28, 29 juillet. Conçue comme un morceau à programme, cette œuvre est modelée sur la victoire de Wellington de Beethoven. Son idée n'est pas d'écrire une musique de bataille, il veut seulement exprimer les sentiments d'exaltation suscités par toutes les révolutions passées et à venir. Trois thèmes sont amalgamés à la symphonie. Un chant hussite du XVe siècle, un choral luthérien intitulé « Eine feste Burg ist unser Gott » et la Marseillaise. Dans le feu de l'action, il griffonne aussi des mots et des phrases sur la partition. Indignation, vengeance, terreur, liberté, désordre, cris confus, vague bizarrerie, fureur, refus, marche de la garde royale, doute, incertitude, partie croissante, 8 parties différentes, attaque, bataille, marche de la garde nationale, enthousiasme, enthousiasme, fragment de Vive Henri IV, dispersé, combiné, allons enfants de la patrie. Sa mère pense, le canon l'a guéri. Mais surtout, les rayonnements de la comète produisent de nouveau leurs effets. Je croyais qu'ils avaient cessé définitivement. Me voilà rassuré, je vais faire une prière. La révolution de juillet a dégagé une atmosphère libérale et en quelques mois, des écrivains, des peintres, des réformateurs et des utopistes s'installent à Paris. En plus de Victor Hugo, il y a Sainte-Beuve, Georges Sand, Honoré de Balzac, Heinrich Heine et Berlioz, Delacroix et Chopin, et Mickiewicz. Ils se retrouvent tous dans les salons qui sont autant d'institutions parrainées par les plus riches familles du royaume qui habitent rue du Faubourg Saint-Germain et du Faubourg Saint-Honoré. Maintenant, Franz est tellement exalté qu'il brûle la vie par les deux bouts. Blond, grand, très mince et à l'allure distinguée, il fait parfois penser à un fantôme. Mais contrairement aux spectres qui sont repoussants, il exerce sur les femmes un charme envoûtant. Alors il rencontre la comtesse Adèle Laprunarède. Elle est jeune et belle, elle est mariée à un vieil homme et il devient son amant. Ensuite, il rencontre Pauline Plater, une autre comtesse qui est d'origine polonaise et qui dit souvent que s'il fallait qu'elle compare les mérites de Hiller, Chopin et Liszt, elle prendrait le premier comme ami, le second comme mari et le troisième comme amant. Il y a aussi Mademoiselle de Barré, avec qui il va en Savoie en compagnie de deux autres femmes folles de lui. Mais la fête est de courte durée parce qu'au printemps 1832, il y a une épidémie de choléra à Paris. Chaque jour, les morts se comptent par centaines. Liszt reste à Paris et répète inlassablement cette phrase. « Il me semblait voir la plus horrible de toutes les émeutes, une révolte des morts. Il me semblait voir la plus horrible de toutes les émeutes.
Il me semblait voir la plus horrible de toutes les émeutes, une révolte des morts. Il me semblait voir la plus horrible de toutes les émeutes, une révolte des morts. »
Il va régulièrement chez Victor Hugo, où il joue la marche funèbre de la sonate en la bémol majeur de Beethoven. « Pendant, dit-il, que tous les morts du choléra défilent vers Notre-Dame dans leur linceul. » Si Dieu ne lui est plus utile, il est réellement hanté par la pensée des morts, des mourants et des damnés. Ce qui annonce certaines de ses œuvres à venir, comme Totentanz, Funérailles et Pensées des morts. Son goût pour la mort lui fait découvrir un homme hors du commun, mi-diable, mi-génie. Qui est-ce ? C'est un violoniste italien qui incarne l'artiste suprême. Il peut tout faire et sa virtuosité est telle qu'on croit qu'il a signé un pacte avec le diable. Il s'appelle Niccolo Paganini. On dit que la quatrième corde du violon de Paganini, dont il tire des sons enchanteurs, est faite des boyaux de sa maîtresse qu'il a assassinée de ses propres mains. On dit qu'il a passé 20 ans en prison à cause de ce crime, avec son violon pour seul compagnon, et que se trouvant isolé, il a réussi à arracher à son instrument le tréfonds de son secret. En avril 1832, il donne un concert à Paris au bénéfice des victimes du choléra. Liszt est présent. Quand Paganini apparaît, le corps perclus à cause de la syphilis, le teint cireux souligné par des lunettes bleu foncé, sa bouche effacée par le menton, on dirait le diable en personne. Dès qu'il entend les premières notes, Liszt se trouve dans un état d'éveil extrême. C'est alors que quelque chose d'irréel se produit. Paganini casse une corde et continue de jouer sur les trois autres. Puis il casse une seconde corde et il joue encore, puis une troisième, et il finit d'exécuter le morceau en entier sur l'unique corde restant sur son violon devant les spectateurs en transe. Franz est subjugué et se dit que c'est exactement comme ça qu'il veut jouer du piano. Aussitôt, il se fixe un gigantesque programme de travail. Il veut créer un nouveau type de répertoire dans lequel il pourrait reprendre au clavier quelques-unes des prouesses les plus spectaculaires de l'italien. Trémolo, saut, glissando, effet de spiccato, harmonique en carillon. Il commence par étudier attentivement un groupe de caprices pour violon solo connus pour leurs difficultés et il s'attelle à les reproduire. Pour arriver à ses fins, il s'impose 5 heures d'exercice et compose des morceaux qu'il achèvera 6 ans plus tard sous le titre « 6 grandes études de Paganini ». Ces études ne sont pas une simple transcription de certaines œuvres de l'italien. Liszt transfère la difficulté technique du violoniste en la reformulant en termes pianistiques. Par exemple, il n'hésite pas à handicaper sa main droite par des tierces et un saut vertigineux à l'autre bout du clavier pour essayer de retrouver l'énergie de Paganini. Il profite d'avoir des mains longues et étroites avec des doigts déliés pour leur faire prendre la forme de fourchette à 2 dents et remonter le clavier comme un petit marteau. Il met en pratique la doctrine de l'égalisation des doigts que lui a enseigné Carl Czerny. Mais il va beaucoup plus loin. Il cherche à imbriquer les mains l'une dans l'autre, ce qui n'est possible à la fin que si on allie la difficulté physique à l'état mental, chose que lui a enseigné Salieri. Ce qui lui fait écrire à un ami
« Voyez-vous, mon piano, c'est pour moi ce qu'est au marin sa frégate, ce qu'est à l'arabe son coursier, plus encore peut-être, car mon piano, jusqu'ici, c'est moi, c'est ma parole, c'est ma vie. C'est le dépositaire intime de tout ce qui s'est agité dans mon cerveau aux jours les plus brûlants de ma jeunesse. C'est là qu'ont été tous mes désirs, tous mes rêves, toutes mes joies et toutes mes douleurs. Ces cordes ont frémi sous toutes mes passions. Ces touches dociles ont obéi à tous mes caprices. Et vous voudriez, mon ami, que je me hâtasse de le délaisser pour courir après le retentissement plus éclatant des succès de théâtre et d'orchestre ? Oh non. En admettant même, ce que vous admettez sans doute trop facilement, que je sois déjà mûr pour des accords de ce genre, ma ferme volonté est de n'abandonner l'étude et le développement du piano que lorsque j'aurai fait tout ce qu'il est possible, ou du moins tout ce qu'il m'est possible de faire aujourd'hui. Peut-être que cette espèce de sentiment religieux qui m'attache au piano me fait illusion, mais je regarde son importance comme très grande. Il tient à mes yeux le premier rang dans la hiérarchie des instruments. Dans l'espace de ses 7 octaves, il embrasse l'étendue d'un orchestre, et les 10 doigts d'un seul homme suffisent à rendre les harmonies produites par le concours de plus de 100 instruments concertants.
Une rumeur se répand aussitôt. Liszt serait démoniaque, satanique, méphistophélique lui aussi. Des spectateurs racontent qu'un récent concert s'est déroulé comme une séance de spiritisme. On aurait dit qu'un esprit avait tenté de se manifester et une vague de peur et d'extase avait alors parcouru le public. C'est alors qu'il croise une femme extraordinaire. Oui, au moment où son travail touche à des zones obscures de l'être, il rencontre Marie Dagou. Elle est très belle, élégante, intelligente et cultivée. Et elle a une profusion de cheveux blonds qui tombent sur ses épaules comme une pluie d'or. Mariée sans amour à un homme de 15 ans plus âgé qu'elle, elle a 2 enfants. Elle vient d'une famille de banquiers allemands, les Bettmann, de Francfort-sur-le-Main. Elle a connu beaucoup de frustrations durant son adolescence, ce qui la rend une névropathe, dépressive et mélancolique. Cet après-midi-là à Paris, rien de tout cela ne transparaît. La marquise de Vaillé a réuni dans son salon rue du Bac un chœur de femmes pour interpréter un morceau de Weber et Marie Dagout, qui a une belle voix, en fait partie. Avant que la séance ne commence, les deux femmes parlent entre elles, quand soudain la porte s'ouvre. Alors Marie Dagout dit qu'une étrange apparition s'offre à ses yeux. Son regard vient de croiser celui de Franz Liszt.
Une taille haute, mince à l'excès. Un visage pâle avec de grands yeux d'un vert de mer, où brillaient de rapides clartés, semblables à la vague quand elle s'enflamme. Une physionomie souffrante et puissante. Une démarche indécise et qui semble glisser plutôt que de peser sur le sol. L'air distrait, inquiet et comme d'un fantôme pour qui va sonner l'heure de rentrer dans les ténèbres.
Franz s'assit à côté de Marie. Et ils bavardent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Les deux jeunes gens parlent de l'âme, de Dieu, avec un sérieux exempt de banalité, sans hésitation et sans effort. Ils l'enchantent et elle le subjugue. En janvier 1834, Franz Liszt et Marie Dagout s'avouent leurs sentiments.
Oh, wie heiß, wie glühend ist noch dein letzter Kuss.
Combien est ardent sur mes lèvres ton dernier baiser.
Je vous aime quelquefois bêtement. Et dans ces moments-là, je ne comprends plus que je ne pourrais, ne saurais et ne devrais pas être pour vous une pensée absorbante comme vous l'êtes pour moi.
En octobre 1834, Marie perd sa fille aînée Louise. L'enfant contracte au château de Croissy une fièvre qui tourne à la congestion cérébrale. Elle délire pendant 3 mois. Elle a aussi de longues syncopes avant de mourir. Brisée de chagrin, Marie refuse de voir Franz qui prend des nouvelles tous les jours pendant 6 mois. Il lui écrit aussi des lettres qui restent sans réponse. Il est très inquiet. Il a raison, parce qu'un jour elle va tellement mal qu'elle tente de se noyer. De plus, elle ne supporte plus sa fille cadette, Claire, dont les jeux et les rires lui tapent sur les nerfs. Alors, elle la met au couvent. Puis un matin, elle va mieux. Alors elle ouvre le courrier qui s'est accumulé et tombe sur une lettre de Franz qui lui annonce qu'il quitte la France et qu'il voudrait la voir une dernière fois. Elle se rend à Paris et les deux amants se retrouvent rue de Provence et elle lui raconte la mort de Louise.
À peine je m'éloignais du lit, qu'un inquiet instinct m'y ramenait. Quel effroi, grand Dieu! Quel effroi. Un jour, elle était assise devant moi et ses yeux étaient ouverts et hagards. Je me suis alors élancée vers elle et elle s'est jetée à mon cou dans un mouvement d'épouvante. Comme pour fuir une main invisible. Je l'ai serrée contre moi et elle a poussé un cri. Et j'ai senti son corps s'affaisser et peser d'un poids inerte sur ma poitrine.
Partons.
Mais vous êtes fou.
Nous ne pouvons plus vivre en France. Ne vous récriez pas, trop de rumeurs circulent sur notre relation. Nous sommes devenus des parias.
Et mon mari?
Ces derniers jours, j'ai pensé à vous quitter. Je voulais mettre entre nous des distances infranchissables. Mais maintenant, je me rends compte à quel point je vous aime, Marie. Je ne veux pas vous laisser languir et dépérir misérablement.
Moi aussi, je vous aime. Et je sais que nos âmes ne sont pas faites pour ces résignations muettes où tout s'éteint dans les pleurs.
Nous sommes jeunes, courageux, sincères et fiers. Marie, il nous faut les grandes fautes ou les grandes vertus.
Grand Dieu!
Votre Dieu n'est pas mon Dieu. Il n'y en a pas d'autre que l'amour. Peu importe où nous allons. Partons.
Marie accepte d'autant plus qu'elle est enceinte de lui, ce qu'il ignore. Les préparatifs se font dans le plus grand secret. Liszt n'en parle qu'à sa mère et à son confesseur et directeur de conscience, l'abbé de Lamennais, lequel lui conseille d'être prudent à cause de cette passion amoureuse qui le ravage entièrement. Marie écrit à son époux.
Charles, mon cher Charles, je vous quitte. Nous allons nous séparer après 8 années de mariage. Quoi que vous en puissiez croire, cela n'a pas été sans de cruels combats, sans larmes amères que j'ai pu prendre une telle résolution. Je n'ai rien à vous reprocher. Vous avez toujours été pour moi plein de cœur et de dévouement. Vous avez toujours songé à moi, jamais à vous. Et pourtant, j'ai été bien malheureuse. Je ne vous accuse pas de ce malheur. Peut-être, et je ne puis vous faire reproche de cette opinion, croyez-vous que la faute en est à moi ? Je ne le pense pas. Lorsque la fatalité a réuni, sans qu'il se soit connu, deux êtres aussi complètement dissemblables que nous le sommes de caractère et d'esprit, les efforts les plus constants, les sacrifices les plus pénibles de part et d'autre ne servent souvent qu'à creuser l'abîme qui les sépare. Je ne dissimule cependant aucun de mes torts et je vous en demande pardon sur la tombe de Louise. Je vous demande en son nom ce qu'elle demande à Dieu pour nous deux. Pardon et miséricorde. Votre nom ne sortira jamais de ma bouche que prononcé avec le respect qui est dû à votre caractère. Pour moi, vis-à-vis du monde qui va m'accabler d'outrage, je ne vous demande que le silence.
Les deux amants se retrouvent à Bâle. Ils y restent une semaine et s'installent à Genève. Ils trouvent une magnifique maison rue de Tabazan. Marie la baptise « Le Rivage » parce qu'elle veut que ce soit son paradis, son point d'ancrage pour réaliser tous ses rêves. Ils vivent heureux les premiers mois, au rythme des réceptions et de l'enthousiasme de Marie à vivre avec un génie. Oui, un génie comme c'est écrit noir sur blanc dans la première biographie qui vient de lui être consacrée, mais aussi tel que Liszt se voit lui-même dans deux articles qu'il a écrits pour la Gazette musicale, à moins que ce ne soit Marie qui les ait écrits. En effet, comme elle veut devenir écrivain et qu'elle veut être son égérie, il est possible qu'elle veuille faire de lui un philosophe et un prophète. Quelques mois plus tard, en décembre, Marie accouche d'une fille. Elle l'appelle Blandine. De son côté, Franz redouble de projets. Il donne maintenant des cours au Conservatoire de Genève et commence d'écrire une méthode de piano et compose « Les années de pèlerinage ». C'est une suite de morceaux à caractère impressionniste qui sont emplis de paysages et de sons de la campagne suisse. Lointain carillon, cascade, jeu d'écho dans la montagne. Mais ce ne sont que des premières versions. Certaines, comme « Cloche de Genève », seront remaniées 20 ans plus tard et on aura beaucoup de mal à reconnaître le matériau d'origine. De tout cela, il a conscience et il dit un jour à Marie
« Il me faudra quelques années pour gagner ou perdre la partie que je suis en train de jouer. »
3 ans ?
Plus.
5 ans ?
Je ne sais pas. Peu importe, après tout, je n'ai que 24 ans.
Tu as toute la vie devant toi. N'oublie pas que tu es né sous les auspices d'une comète.
Une comète ? Quelle comète ?
J'ai consulté une voyante qui m'a prédit que je serais amoureuse d'un homme né sous le signe bénéfique d'une comète.
Tu penses que je suis cet homme ?
Bah oui, n'est-ce pas vrai ?
C'est ce que m'a raconté mon père. C'était la grande comète, la comète Napoléon. Elle était dans le ciel le jour de ma naissance.
Tu as de la chance, Franz.
Toi, tu es né au milieu de la nuit du 30 au 31 décembre. Et tu es une enfant de minuit. Nacht Kinder. Ta nature est aussi mystérieuse que la mienne, Marie. J'ai entendu dire qu'en Allemagne, ces enfants avaient un don. Qu'ils étaient visités par des songes et des apparitions.
Parfois, un tel don peut être un véritable poids et produire plus de mal que de bien.
Mon amour, si nous quittions Genève pour quelques semaines.
Où veux-tu aller ?
À Chamonix.
Invitons Georges Sand.
Je n'ai plus de nouvelles d'elle.
Elle divorce. Et c'est compliqué parce que son mari l'accuse de voies de fait, d'adultère et de lesbianisme. Elle ne sait pas si elle pourra garder sa maison de Nohant.
Invitons aussi alors Adolphe Pictet.
Le major ?
Oui.
Sais-tu à qui Georges Sand le compare ?
Non.
Elle dit qu'il est Méphistophélès habillé en douanier.
Sais-tu pourquoi on l'appelle le major ?
Non.
Parce qu'il fabrique des obus.
Alors ils vont à Chamonix avec Hermann. Ils retrouvent Georges Sand, accompagné de ses enfants et le major Pictet, à l'hôtel de l'Union. Un soir qu'ils dînent dans la salle à manger bondée, on les place à une table d'angle tout au fond de la salle et un Anglais, qui dévisage Liszt, demande à un Français installé à une table voisine « Who's that fellow ?» Le fait d'être désigné de « that fellow » amuse tellement Liszt qu'il adoptera ce terme comme pseudonyme pendant tout le séjour. Ainsi, Marie et lui deviennent « Mr. and Mistress Fellows ». Il faut dire que depuis son arrivée, Liszt fait preuve de beaucoup d'humour. Il a déclaré sur le registre de l'hôtel « Lieu de naissance, Montparnasse. Profession, musicien-philosophe, venant du doute, allant à la vérité. Quand ils regagnent leur chambre, ils continuent de plaisanter et Marie est heureuse. Et quand Liszt commande du punch et que Georges Sand distribue ses cigares qu'elle appelle poétiques parce qu'ils contiennent de l'opium, c'est l'euphorie. Et même si Marie passe la nuit à une extrémité du sofa sans boire une goutte d'alcool, elle se sent bien. Elle regarde Pictet, qui se lance dans un très long débat philosophique devant un auditoire imaginaire situé dans le plafond. Puis elle regarde Georges Sand, qui danse autour de la pièce en riant aux éclats. Et elle regarde aussi Franz, qui fait le chef d'orchestre devant les chaises, qu'il fait tomber une à une parce qu'elle chante faux. Puis le lendemain, ils vont à Martigny, et ensuite à Lucerne et à Fribourg. Puis Georges Sand et ses enfants rentrent en France en passant par Genève et le groupe se sépare. Les vacances sont finies. Un nouveau virtuose du piano apparaît et Franz Liszt sent sa place vaciller. Il s'appelle Sigismund Thalberg. Ça fait un moment qu'il donne des concerts à Paris, mais cette fois Liszt ne peut plus l'éviter. Un jour ou l'autre, il sait aussi qu'il devra se mesurer à lui. On les compare et pour la première fois, Liszt n'est pas flatté. S'ensuit la parution d'une série d'articles dans différents journaux qui prennent le parti de l'un et de l'autre. Il n'y avait pas eu à Paris un tel malentendu depuis la querelle des bouffons 85 ans auparavant. Partout, on dit que Thalberg a un jeu poétique et raffiné et qu'il est très calme au piano tout en étant capable d'effets techniques étincelants en donnant l'impression de rester immobile. On dit aussi qu'il réalise l'idéal zen de paix au centre et l'idéal de combat en périphérie. Certains disent même qu'il a trois mains, non pas en référence à un quelconque pouvoir diabolique comme on le fait avec Liszt, à l'instar de Paganini, mais en dévoilant une nouvelle méthode. Elle consiste à ne pas se cantonner au seul piano Érard, mais à tirer aussi parti des pléyels. Ceci pour arriver à créer l'illusion du chant « cantando ». C'est alors qu'une princesse rentre en scène. Elle est italienne. Elle s'appelle Cristina Tribulzio Belgiojoso. C'est une révolutionnaire. Elle est une proche de Garibaldi et de Mazzini. Elle les a soutenus dans leur lutte pour l'unification et l'indépendance de l'Italie. Elle a été accusée de haute trahison et s'est réfugiée à Paris, où elle vit maintenant rue d'Anjou, dans un hôtel particulier. On raconte que son mari l'a quittée pour une jeune duchesse et qu'elle a depuis beaucoup d'amants, dont Lafayette et Heinrich Heine. On dit aussi que lorsque la police est allée perquisitionner son palais en Italie du Nord, les gendarmes ont trouvé caché dans la penderie de sa chambre le cadavre de l'un de ses jeunes amants. Est-elle comme son compatriote italien Paganini, possédé par le diable? Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle aime la musique. Alors, elle propose à Liszt et Thalberg de s'affronter en duel au piano afin de savoir lequel des deux est le meilleur. Ce jour-là, le 31 mars 1837, il y a tellement de monde qu'elle peut fixer le prix du billet à 40 francs. Le concert se solde par un match nul. Deux vainqueurs et pas de vaincu. Jamais Liszt n'a été aussi sage, aussi retenu, énergique et passionné, et Thalberg aussi tendre. Et quand on demande à la princesse son avis, elle dit « Thalberg est le premier pianiste du monde, Liszt est le seul ».
C'était « Le plus grand pianiste de tous les temps » de Christophe Fiat. Avec André Wilms, Robinson Stévenin, Élodie Hubert, Eva Almassi, Adam Biro, Jean-Noël Lefebvre. Musique originale, Franz Liszt, Richard Wagner. Création sonore, Quentin Dumay. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Philippe Bredin, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Christophe Auquet.